Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et trouver le livre des rois, le premier livre des rois, et le chapitre 17. Et j'ai intitulé ce message « Dieu n'est pas mort ». J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Alors, le premier livre des rois, chapitre 17, et nous allons lire... Versets 1 à 7. Premier roi 17, versets 1 à 7. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon... à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors voilà notre texte pour ce matin. Et pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous venons de lire, ce serait très important de comprendre le contexte. Et le contexte, nous avons ce chapitre 17 qui se trouve justement dans le contexte du livre des rois. Et le livre des rois... Les deux livres, 1 et 2, racontent justement l'histoire de la monarchie en Israël, des rois d'Israël et de Juda. Et là, nous avons tout de suite une question que nous devrions nous poser. Comment se fait-il qu'il y ait des rois en Israël? Quand Dieu avait pris son peuple, il les avait délivrés de l'esclavage de l'Égypte. C'est lui qui était justement le roi, qui les guidait, qui prenait soin, qui donnait ses lois et ainsi de suite. Et à un moment donné, le peuple a décidé de mettre Dieu de côté. Ils se sont approchés de Samuel, ils ont dit, nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Et comme vous savez dans l'histoire, Samuel est attristé, il va voir Dieu, puis Dieu a dit, non, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que je ne règne plus sur eux. Mais tu vas leur établir un roi, mais dans leur des avertissements, qu'est-ce qui va se passer? Et là, Samuel va dresser une liste de tout ce qui va se passer si le peuple établit un roi. Et là, même malgré tout ce que Samuel leur a dit, comment est-ce qu'il allait prendre leur fils pour mettre dans son armée leur fille, justement, pour être ses cuisinières, et ainsi de suite. Non. Nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Un roi qui va être à notre tête et qui va diriger, justement, notre pays et qui va combattre aussi à la tête de notre armée. C'est surprenant que dans cela, ils n'ont jamais parlé de son caractère. Un roi pragmatique. Alors, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, malgré le fait qu'il rejetait Dieu comme roi, a donné justement un roi à Israël. Tout d'abord, un roi selon le propre cœur, Saül, et ensuite un roi selon son cœur à lui, David, malgré justement les faiblesses de David, un homme qui avait un cœur tendre, un cœur sensible. Et Dieu aussi, dans sa grâce et sa bonté, a donné des instructions au roi pour dire que si les rois obéissent à mes commandements, suivent justement la loi que j'ai prescrite à Moïse, malgré le fait qu'ils m'ont rejeté, je suis prêt à les bénir à travers le roi. Alors le roi, il devait avoir justement une copie de la loi, il devrait lire dedans à tous les jours, afin d'être un roi qui règne en justice, et aussi d'être bénéficié de la bénédiction de Dieu. Sous David, Israël a prospéré. Sous Salomon, il y a eu aussi un règne de paix. Mais tout de suite après cela, on voit que ça commence à dégringoler, et il y a un schisme qui arrive dans le pays. Et là, vous avez des 10 tribus qui sont au nord, qui sont, maintenant on les appelle Israël, et 2 tribus au sud, il y a Juda et Benjamin, et là, vous avez cette division. Et le livre des rois raconte justement l'histoire de toute cette monarchie en Israël, au nord et au sud. Les rois en Israël au nord sont tous méchants. Il n'y en a pas un seul bon dedans. Ça va de mal en pire. Au sud, vous avez de temps à autre des réveils. Il y a des bons rois comme Josaphat, Assa, Ézéchias, qui vont ramener le peuple dans les voies de Dieu. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive? Ça dégringole, dégringole, dégringole. Et finalement, le peuple est amené. Les rois d'Assyrie viennent. Les 10 tribus au nord sont amenés en captivité. Les 2 tribus, des années plus tard, au sud, Juda sont amenés en captivité en Babylone. Et ça, c'était des conséquences de leur rejet de l'Éternel et aussi leur désobéissance. Alors, selon les commentateurs, l'auteur du livre des rois est un prophète qui est en exil en Babylone. Et vous pouvez imaginer des gens qui sont nés parce qu'ils ont passé 70 ans en Babylone. Et les gens qui sont nés, les enfants peut-être qui sont nés en Babylone, pourraient se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons dans cet état? Nous sommes des esclaves, nous sommes en captivité. Où est Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël, avec notre pays, avec notre identité? Et là, l'auteur, alors, il écrit le livre des rois, justement, pour démontrer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils sont arrivés là. Et aussi pour donner à ses destinataires le but pour qu'ils puissent apprendre de leur histoire et aussi de donner de l'espoir. Parce que dans le livre des rois, vous allez voir que malgré le fait qu'Israël est une nation maintenant qui tombe dans l'apostasie, il y a des moments où est-ce que Dieu va donner de l'espérance. Et malgré leur désobéissance, il y a 2 rois qui se sont humiliés devant Dieu et Dieu est miséricordieux à leur égard. Alors le peuple qui est en exil pourrait avoir cette même aussi espérance que Dieu ne les avait pas oubliés. Alors ça c'est le contexte de notre chapitre. Et plus précisément, j'aimerais vous mettre maintenant dans le contexte du chapitre 17. Là vous avez en Israël, au nord des 10 tribus, nous avons un roi qui s'appelle Achab et Jézabel. Et j'aimerais vous dire ici que c'est un moment extrêmement sombre dans l'histoire d'Israël. Si vous regardez au chapitre 16, vous allez voir ce qu'on parle au verset 29, 30, 31, 32. Je lis le texte. Achab, c'est notre roi, fils d'Omri. Fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Ethbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est le roi qui était sur le trône à l'époque, avec son épouse. Et le culte à Baal atteint son apogée. Baal, c'était le dieu d'orage et de fertilité. C'était le dieu vers qui les agriculteurs se tournaient justement pour avoir de la pluie, pour avoir justement les récoltes et ainsi de suite. Et ce culte-là qui était dans le pays déjà, et Dieu les avait justement donné des avertissements, quand vous entrez dans le pays, vous ne devrez pas aller auprès de ces dieux, servir leur dieu, parce qu'il va y avoir des conséquences. Mais cet homme-là ramène et amène justement ce culte à Baal dans le pays, et l'apostasie atteint son comble. Sa femme Jézabel était une femme extrêmement méchante. Et non seulement qu'elle, avec son mari, se donnait justement à l'idolâtrie, mais elle avait aussi de l'hostilité contre les prophètes de Dieu qui étaient en Israël à l'époque. Et à un moment donné, elle a eu une campagne justement de les éliminer, de les exterminer dans le pays d'Israël. Alors, il y a l'apostasie en Israël. Il y a aussi la masse. Il y a les milliers en Israël. C'est distribué au nord. Et pour eux, il y a l'apathie. L'Éternel est Dieu, bof. Baal est Dieu, who cares? Aussi longtemps que nous avons du pain et nous avons de la nourriture, ce n'est pas grave. Alors, il y avait cette attitude justement de laisser aller d'insouciance parmi justement les milliers en Israël. Il y avait aussi la minorité. 7000 personnes, parce que plus tard, si vous connaissez l'histoire, Élie pense qu'il est seul. Mais Dieu nous dit non, je me suis réservé 7000 hommes en Israël, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais la problématique ici avec les 7000, c'était qu'ils étaient anonymes. Élie ne savait même pas qu'il existait. Et probablement, face à cette situation qui prévalait en Israël, sans doute ils étaient peut-être trop timides, paralysés, n'osaient pas faire des vagues. En tout cas, ils étaient là, puis on ne savait pas. Et selon les apparences, comme nous avons ici, Dieu était mort. Dans ce pays qui avait si bien commencé, pour eux, Dieu était mort. Le monde vivait comme si Dieu était mort. Il y avait des épaisses ténèbres spirituelles qui planaient en Israël. Et vous savez, ça, c'est pas nouveau, l'histoire se répète. Juste avant la Réformation, quand Martin Luther, justement, a cloué ses 80 thèses sur, justement, la porte de son église, il y avait aussi des épaisses ténèbres spirituelles en Europe. Le catholicisme, justement, avait, justement, pris de l'ampleur. Et les gens étaient dans l'ignorance et dans les ténèbres en ce qui concerne la vérité de la parole de Dieu. D'autres étapes aussi, en Angleterre, en Écosse, il y a eu ces moments où est-ce que il semble que Dieu est mort. Et si vous transposez ça aussi aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, la situation n'a pas changé. Vous regardez les chefs des nations, notre voisin au sud qui ont sur la pièce de monnaie de 1 sou, In God We Trust, une nation qui a été fondée sur les principes judéo-chrétiens. Vous avez des chefs, vous avez un chef aujourd'hui, c'est le pragmatisme. On ne soucie guère du caractère. He can get the job done. C'est ce qu'on le monde il veut. Sa vie privée, et ce qu'il fait, ses mœurs, c'est pas grave. Et le Canada, on n'est pas non plus mieux. Vous regardez aussi les masses. Aujourd'hui, vous parlez aux gens dans la rue, dans la communauté, vous devez, au travail. Et les gens vont vous dire aujourd'hui, « Ah, vous avez votre vérité, viens ne pas m'achaler avec ça, moi j'ai ma vérité. » Que ce soit Bouddha, Allah, who cares? Peut-être aussi, vous regardez des gens qui se disent chrétiens et vous voyez la façon dont ils vivent. Et ça aussi, on pourrait voir comme, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là dans leur vie? Et peut-être même aussi dans votre propre famille. Vos enfants, vos petits-enfants, vous voyez la façon dont ils vivent. Peut-être quelques-uns ce matin, vous avez un fardeau et vous vous posez la question, comment est-ce qu'ils peuvent vivre comme cela, comme si Dieu n'existait pas? Mais vous savez, le texte nous dit dans Psaume 66, au verset 7, que Dieu domine éternellement par sa puissance. Dieu n'était pas mort. Même si en Israël, les gens vivaient comme il était mort, Dieu n'était pas mort. Ses yeux observent les nations et ses yeux observaient Israël. Et même si aux yeux d'Israël, Dieu était mort, aux yeux de Dieu, Israël était vivant. Et ce peuple qui était infidèle allait faire face justement à un Dieu qui reste fidèle à ses promesses. Il avait fait des promesses à Abraham à propos de cette nation. Il dit, je vais vous faire une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et même si Israël délaisse l'Éternel, il y a l'apostasie en Israël, Dieu allait intervenir pour montrer qu'il était bel et bien vivant. Quel encouragement pour nous aujourd'hui. Et là, il va chercher quelqu'un. C'est toujours le cas. Quand les ténèbres sont épaisses, quand justement les ténèbres spirituelles sont épaisses, il y a toujours un homme, une femme, quelqu'un quelque part qui se tourne vers Dieu avec justement ce désir de voir les choses changer. Et j'appelle cet homme, comme nous avons vu, Élie l'audacieux. Élie regarde la monarchie, l'apostasie. Il regarde les masses, l'apathie. Il ne sait même pas que la minorité existe. Mais lui, il dit, je ne fais pas comme les autres. Ce serait plus facile aussi de suivre le courant dans ce temps-là pour dire, est-ce que ça vaut la peine? Tout le monde le fait, alors fais-le donc. Mais pas Élie. C'est un homme qui vivait pleinement selon la signification de son nom. Son nom veut dire mon Dieu et l'Éternel. Et Élie savait que son Dieu était vivant. Et puisque Dieu était vivant, il savait qu'il y avait une solution pour la problématique qui était en Israël. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce que vous, si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous et moi? Alors ce matin, j'aimerais avec vous regarder trois interventions du Dieu vivant dans la vie d'Élie pour nous montrer justement que Dieu n'est pas vivant et dans chaque époque, à chaque moment, à chaque heure de notre histoire, il est toujours un Dieu qui agit. Et je vous invite à tourner avec moi maintenant dans le livre, l'épître de Jacques, s'il vous plaît. Parce que ça va nous mettre dans le contexte. Parce qu'Élie arrive comme un cheveu sur la soupe, dans 1 Roi 17. Mais il y a des choses qui se passent avant cela. Alors si nous allons dans Jacques chapitre 5, vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec Élie. Et je vous lis le verset 17, et juste avant le verset 17, il y a le verset 16 qui nous dit ceci. « Confessez Jacques 5, 16, donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors ça, c'est le contexte de Jacques 5, 17. On part de la prière. On part de la prière qui est fervente. On part de la prière qui, justement, s'accroche à Dieu. Et ça, c'est le contexte maintenant de verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors, voilà la solution quand il y a un temps d'apostasie. Voilà la solution quand il y a un temps de ténèbres spirituelles épaisses. Voilà un temps quand les masses, justement, suivent le courant. Qu'est-ce que vous et moi, nous pouvons faire en tant que chrétiens? Nous pouvons prier, nous pouvons nous approcher de Dieu qui est vivant et nous pouvons lui demander, justement, d'intervenir. Et si vous regardez dans l'original, il pria avec instance, vous ne trouverez pas le mot instance. Le texte, c'est le verbe pour prier. Alors, ça pourrait lire, il priait, et il priait, et il a prié, il a prié, il a prié. Ça veut dire qu'il était un homme qui est allé dans la présence de Dieu et qui a persévéré dans la prière. C'est pourquoi le texte avant nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Un homme qui a persévéré dans la prière. J'aimerais vous suggérer que Élie est allé devant Dieu avec un fardeau, avec un cœur brisé. Voyons ce qui s'est passé en Israël. Un cœur qui était caractérisé par la contrition et la confession, qui est allé devant Dieu justement pour parler de son peuple et pas pour les... Justement pour amener ce peuple devant Dieu, puis amener aussi Dieu face à son peuple, dire... Faites quelque chose, faites quelque chose. Et vous allez la même chose aussi dans l'exemple de Daniel, où il est en Babylone, il est en captivité, il va devant le Seigneur et il plaide le Seigneur, nous avons péché, à nous la confusion de face. Seigneur, à cause de ton nom, interviens, agis, agis. Prière suivie et entourée par le jeûne et la déplore. Dans la vie de Néhémie, Néhémie chapitre 1, Néhémie apprend que Jérusalem, la ville de Dieu, est en ruine. Les murailles sont brûlées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sac et le cendre. Il pleure, il jeûne. Et là, il va devant Dieu avec la même chose, un cœur brisé. Et il implore justement l'intervention de Dieu. Jésus, quand il a vu justement Jérusalem... Et là, il va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides de ceux qui te sont envoyés, combien de fois aurais-je vous rassemblé comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Alors ça, c'est le commencement. Si nous voulons que Dieu intervienne et change une situation, mais il faut commencer avec nous. Où est-ce que Dieu nous donne ce fardeau? Nous allons dans sa présence, nous implorons justement la miséricorde de Dieu, nous demandons à Dieu de se lever, d'agir, de faire quelque chose. J'aimerais vous suggérer que Élie n'est pas resté là. Parce que dans sa prière, il va demander quelque chose de très précis. Mais comment se fait-il qu'il arrive à ce moment-là et qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Et il savait aussi que sa prière allait être exaucée, il y a une conviction. Et la manière quand nous sommes devant une situation difficile, et nous amenons cette situation devant le Seigneur, et nous implorons le Seigneur d'intervenir, Psaume 25 nous dit ceci. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. J'aimerais vous dire ce matin que celui ou celle qui s'approche de Dieu, avec un cœur brisé et contrit, avec un fardeau justement pour que les choses changent, Dieu voit un cœur humble, un cœur brisé et un cœur contrit. Et Dieu va enseigner justement à cette personne comment prier. Et Élie, sans doute, a appris ceci. Premièrement, l'intervention de Dieu, ce serait pour que le nom et la gloire de Dieu soient maintenant ramenés à ce qu'ils devraient être. Que nom soit sanctifié. Il y avait des méchants rois en Israël. Sans doute, Dieu a donné justement à Élie ce désir de prier qu'il y ait justement un roi qui aurait un cœur tendre et qui allait régner justement selon la justice comme Jésus-Christ va faire un jour qui va venir. Et que sa volonté soit faite en Israël pour que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Alors il a pu prier. La Bible ne dit pas, mais dans le secret, et parce qu'il avait été enseigné par Dieu, il sort maintenant de ce temps de prière, avant qu'il se présente à Achab. Il y avait un cœur brisé au début, maintenant il y a un cœur qui brûle, et il y a cette conviction, il sait quoi demander, la bonne requête. Dieu lui a dit exactement la requête qu'il pouvait demander pour la situation. Pourquoi? Parce que derrière tout cela, c'était la gloire du Seigneur. La bonne motivation et aussi la bonne personne. Quelqu'un a dit ceci, si vous commencez à prier pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais soyez prêt aussi de faire partie de la solution. Et Dieu a mis dans le cœur d'Élie, je vais intervenir, j'ai entendu ta requête, je sais quoi faire face à cette situation. Nous avons vu ce matin, avec Dieu, rien n'est impossible. Je te donne la bonne motivation. Je te donne la bonne requête. Et toi, Élie, tu es la bonne personne pour faire face à cette situation qui paraît impossible en Israël. Un roi méchant et sa femme qui est là, la masse, qui est indifférente. Vous avez des gens qui sont paralysés. Mais nous avons un homme qui s'est connecté à Dieu et qui va sortir maintenant de ce temps de prière et d'intercession, sachant que Dieu allait exaucer sa prière. La bonne requête, la bonne motivation, la bonne personne. Et j'aimerais ce matin vous encourager aussi, si vous êtes dans une situation qui paraît impossible. Peut-être vous avez prié des années de temps pour vos enfants qui ne suivent pas le Seigneur. C'est quoi la motivation? Que le Seigneur, son nom soit glorifié. Que ces personnes, que son règne vienne au Seigneur. Et reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous savez, et surtout dans le milieu chrétien, il y a certaines, et je ne dis pas ça pour juger qui que ce soit, mais certaines pressions, surtout pour les parents. Il y a des parents qui ont élevé leurs enfants et les enfants suivent le Seigneur. Et gloire au Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Mais il y a d'autres aussi qui ne suivent pas le Seigneur. Et souvent, ça pourrait être justement difficile à supporter. Et malgré les prières qui montent, il semble que rien ne change. J'aimerais ce matin peut-être vous encourager d'examiner votre motivation. Est-ce que vous voulez que vos enfants suivent le Seigneur pour que les autres frères et sœurs ne vous regardent pas comme si vous avez manqué dans votre façon d'élever, ou est-ce que vous voulez justement que vos enfants viennent au Seigneur pour que justement son nom soit sanctifié dans leur vie, qu'ils le reconnaissent comme le roi, le sauveur de leur vie, et que sa volonté soit faite dans leur vie, pour que Dieu soit glorifié à travers eux. Ça, c'est la bonne motivation. Et si vous vous approchez de Dieu dans cette optique-là, c'est sûr que Dieu va vous donner justement la bonne prière, quoi demander dans leur vie. Et quand nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu écoute et exauce. Alors, Dieu est vivant. Nous avons ce qu'il a fait dans la vie d'Élie. Et maintenant, nous allons voir, deuxièmement, ce que Dieu vivant va faire à travers la vie d'Élie. Nous avons vu Élie connecté à Dieu. J'aimerais maintenant vous montrer Élie courageux pour Dieu. Et on retourne maintenant dans 1 Roi, chapitre 17. Nous avons maintenant vu comment se fait-il que Élie se présente devant Achab. Et là, dans le verset premier, nous relisons ce que nous avons lu. Une parole puissante. Achab et Jézabel et tous les acolytes avaient besoin de voir un homme, non seulement puissant dans la prière, mais puissant en parole. Avaient besoin de voir un homme, non seulement qui avait été avec Dieu, mais un homme qui avait été envoyé par Dieu, justement pour confronter cette situation qui ne devrait pas exister en Israël. Et nous lisons ceci, Élie de Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans le 8 secondes, vous allez voir, dont je suis le serviteur. Darby va donner justement une traduction plus littérale, devant qui je me tiens. Et ça, c'était l'audace. Un homme seul qui se lève, malgré tout ce qui se passe, il y a l'audacité d'aller confronter justement ces ténèbres spirituelles qui régnaient dans la monarchie. Et pour le dire, l'Éternel est vivant, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon selon ma parole. Vous allez dire, waouh, il était affronté, lui. Et ça, c'est un homme qui avait passé du temps avec son Dieu, qui avait été enseigné par Dieu. Et maintenant, c'était le temps d'aller justement confronter ces épaisses ténèbres spirituelles qui régnaient en Israël. Et il va justement à la source, Achab et Jézabel. Il leur dit, Paul, voilà, une parole pour vous, venant de l'Éternel. Pourquoi cette parole est puissante? Dans un premier temps, c'est une parole véridique. Vous vivez comme si l'Éternel est mort. Il n'est pas là. Mais j'aimerais vous dire ce matin, Achab et Jézabel et vous tous qui entendez Élie, que l'Éternel est vivant. Et ça, ça va même sans dire. Parce que le mot éternel, hébreu, c'est Yahvé. Yahvé veut dire quoi? C'est celui qui est l'existant. Dans Deutéronome 32, Dieu dit, je vis éternellement. Dans Psaume 90, Moïse, dans le cantique, va dire, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Jésus va dire en Apocalypse, chapitre 1, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était, qui vient. Ça, c'est comme dire que l'eau est trempe. Ou bien la glace est froide. Le fait que éternel, ça veut dire simplement, oui, je suis l'eau, je suis vivant, j'existe. Ça, c'était la vérité et Achab et Jézabel avaient besoin d'entendre cela. Véridique aussi, puissante, parce qu'il y a une vérité à propos d'Israël. Malgré leur attitude, malgré leur désobéissance, Dieu n'avait pas changé. Eux, ils avaient changé. Mais il était toujours le Dieu d'Israël. Il avait dit ceci, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est quand il les a sortis d'Égypte. Vous êtes mon peuple, je suis ton Dieu. Vous êtes mon peuple. Combien de fois on lit dans Lévitique, Deutéronome, l'Éternel, votre Dieu, vous êtes mon peuple. Même si vous vivez que je suis pas là, que je suis absent, que je suis mort, moi, vous êtes mon peuple, je ne vous lâche pas. Quelle vérité! À propos d'Israël, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et Dieu avait donné un avertissement sévère à Israël. Il leur avait dit que si vous désobéissez à mes lois et mes commandements, j'allais fermer les cieux. Les cieux deviendraient comme les rats. Il n'y aura pas de pluie. Et ça, c'était justement pour piquer leur conscience, pour leur dire, écoute, nous sommes en train de vivre dans la désobéissance. Alors, ça, c'était pour aussi pour la conscience de Achab et Jézabel et les autres pour leur dire, écoute, la pluie et la rosée va cesser et vous allez voir que vous êtes à côté de la traque, vous êtes dans le mauvais chemin. Et finalement, c'était une parole à propos d'Élie. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie selon à ma parole. Et ça, c'était un test justement pour la véracité d'un prophète. Parce qu'en Israël, il y avait des faux prophètes. Et Dieu avait dit, comment est-ce qu'on va distinguer et différencier entre celui qui est faux et ce qui est vrai? Alors, si le prophète dit quelque chose, en mon nom, et ça arrive, mais là, vous allez savoir que c'est moi qui ai parlé à travers le prophète. Et Élie, il n'a pas peur de dire à Achab, écoute, je suis le prophète de l'Éternel, tu vas voir. Je dis qu'il n'y aura pas de pluie, il n'en aura pas. Ça, c'est pour authentifier justement qu'il était le prophète de l'Éternel. Et finalement, pour donner Baal était supposé d'être quoi? Le dieu d'orage. On nous dit que souvent dans l'Antiquité, on avait des statues de Baal avec un éclair dans sa main. Et là, voilà, 3 ans et demi allaient passer. Pas une goutte de pluie, pas de rosée. Baal, il est qui? Il est où? Ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est Baal qui est mort. Et c'est ce que Élie voulait justement démontrer dans ce contexte. Tout cela pour vous dire que face à les ténèbres épaisses, la prière, oui, c'est bien, mais aussi c'est la parole. La parole de Dieu nous dit que Élie, tout ce qu'il fait ici, il va montrer par la parole qu'il prononce la vérité de la situation. Dieu est vivant. Vous êtes toujours ses enfants. Je suis son prophète. Baal, ce n'est pas le vrai Dieu et vous êtes dans la désobéissance. La vérité. Et ça, c'est justement l'arme que Dieu vous a donnée et nous a donnée quand nous sommes dans des combats spirituels, dans des situations qui semblent impossibles. Pourquoi? Parce que Hébreux 4, 12 nous dit ceci, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand vous êtes devant une situation qui est difficile, qu'est-ce qui va trancher? Vous pouvez gagner des arguments avec quelqu'un et justement perdre la personne, surtout dans un contexte d'évangélisation. Mais il n'y a rien comme la parole de Dieu qui va droit au cœur et qui révèle justement la vérité de Dieu, et qui a la puissance aussi de dissiper les ténèbres qui existent dans le cœur des gens. Voilà Jésus, quand le prince des ténèbres s'approche de lui, qu'est-ce que Jésus va dire? Il est écrit. Il est écrit, et il est écrit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une parole qui est puissante, agissante et qui peut dissiper justement les ténèbres. On nous parle de l'histoire d'un prédicateur qui devrait prêcher justement dans un nouveau bâtiment. Et on nous dit ceci, qu'il était en train justement de tester les acoustiques du bâtiment. Et là, il voulait voir comment sa voix allait projeter avant son premier sermon. Puis il est allé justement sur l'estrade. Puis il a commencé à crier, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde! » Non, c'est pas pire. « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde! » Sans le savoir, il y avait des ouvriers qui travaillaient justement dans l'entre-trois. Et selon l'histoire, c'était juste en prononçant ces paroles. Il n'a même pas exposé son sermon, quoi que ce soit, juste en disant... L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la puissance de la parole, il y avait un ouvrier qui a été foudroyé par la parole de Dieu et qui a donné sa vie au Seigneur. Je vous ai déjà raconté aussi l'histoire de ma belle-mère, un âge avancé qui était ancré dans le catholicisme et qui, pour elle, Marie était Marie. Et quand mon épouse lui a dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, dès ce jour-là, elle n'était plus capable de prier Marie. Et aujourd'hui, à 102 ans, sauvée par la grâce de Dieu, et en route pour le ciel, et qui passe ses journées à écouter justement des cantiques d'héritage. On lui a acheté des quatre. Et elle nous dit souvent, elle me sent déjà au ciel, sauvée glorieusement par la puissance de la parole de Dieu. Ténèbres dissipées. Dieu est vivant. Ce qu'il a fait en Élie, ce qu'il a fait à travers Élie, finalement, ce qu'il a fait pour Élie. Élie était un homme connecté à Dieu, un homme courageux pour Dieu, mais aussi un homme comblé par Dieu. Verset 2 de notre texte, la parole de Dieu de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici ». Ça, c'est une... Et dirige trois, le Seigneur va lui dire, près du torrent de Kérit. Ça, c'est un peu étrange. Un peu étrange. On vient de commencer, Seigneur. T'sais? Moi, là, je suis allé, puis j'ai confronté le roi, puis « Let's go, let's go, let's go! » Dieu va lui dire, « Pars d'ici. » Pourquoi? Deux possibilités. Quand le Seigneur commence à utiliser quelqu'un, il y a toujours un danger à cause de nos cœurs. Notre frère Donald en parlait ce matin, c'est l'orgueil. Pouvez-vous imaginer, on va utiliser un petit peu justement l'imagination sanctifiée, comme j'appelle. Vous avez les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et là, il y a Élie qui se pointe. Waouh! Et là, les années commencent à se passer, les mois, les semaines, il n'y a pas de pluie. Puis imaginez, pour, à leurs yeux, Élie, hey, wow, c'est celui qu'on attendait. Je pourrais imaginer qu'ils disent, wow, Élie, he's got the power, he's got the power, Élie, Élie, Élie. Hey, il peut fermer les cieux. Imaginez aussi, Élie entend ça, puis, I've got the power, j'ai le pouvoir. I've got the power. God dit, non, le Seigneur a dit, non, tiens, pars d'ici. Nous avons la même chose aussi avec les disciples. Le Seigneur les envoie deux par deux, leur a donné justement le pouvoir justement sur les démons. Et là, ils reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et le Seigneur a dit, non. Ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Si les disciples, we've got the power. On a le pouvoir. Non. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les prend, il s'en va à l'écart. Même chose aussi dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait la multiplication des pains. Et les gens qui ont vu cela, ils ont dit, wow, c'est le prophète qui devrait venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir et de l'enlever pour lui faire roi, le mot veut dire par force, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Voilà, il faut faire attention. Si nous sommes dans une situation et on sait que Dieu, après avoir passé du temps dans la prière, et Dieu nous a équipés pour confronter, faites attention parce que l'orgueil est toujours là pour saboter l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement aussi, il y a l'opposition. Jézabel n'allait pas prendre cela à la légère. Même plus tard, on voit qu'elle envoie une menace justement pour tuer Élie. Alors, Dieu l'envoie un endroit. Il dit, cache-toi près du torrent, tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Ça, c'est les voies de Dieu. Comment son ministère? Waouh! Dieu dit, tiens, pour un moment, tu vas aller à l'écart. Et c'est spécial, qu'est-ce que Dieu fait? Une caverne. Il va être à l'abri. C'est sûr que quand vous lisez dans le chapitre, Achab, il envoie des messagers, il cherche partout dans les pays, il ne peut pas, il trouve pas Élie. Dieu l'a caché dans un endroit particulier, sans doute une caverne où est-ce qu'il est à l'abri justement de toutes ces personnes-là. Les corbeaux. En Israël, ce sont les animaux impurs, parmi la classe des animaux impurs. Imagine que Élie, maintenant un juif pieux, il faut qu'il dépende des autres. C'est toute une leçon d'humilité. Et la cuisine, pain, viande, eau. Déjeuner, pain, viande, eau, souper. Lendemain, pain, viande, eau. Pain, viande, eau. Lendemain, pain, viande, eau. Pain, viande, eau. Imagine, qu'est-ce que vous ferez dans cette situation? Élie apprend justement l'humilité, aussi le contentement. Il y avait suffisant pour rester en vie. Dieu n'avait pas terminé avec Élie. Il allait l'utiliser pour faire d'autres choses. Mais dans cette caverne ici, dans la caverne, avec cette nourriture, avec les corbeaux, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait Dieu. Et c'est ça qui comptait dans la vie d'Élie. Il y avait justement la présence de son Dieu et il savait qu'il était entre la bonne main de Dieu et que Dieu allait l'utiliser pour justement sa gloire. Psaume 84 de Samis va dire ceci, « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Portier, c'est pas grave. Mais au moins, je suis dans la présence de mon Dieu. Laisse faire Achab et toute la splendeur de la cour royale. Je suis dans un endroit où Dieu, c'est Dieu qui veut que je sois là. C'est correct. Je suis avec mon Dieu. Il va pourvoir à mes besoins. Je termine avec ceci, brièvement. Dieu est vivant. Nous avons vu ce que Élie, dans ses mains, ce qu'il a fait en Élie, à travers Élie et pour Élie. Si vous voulez retenir quelque chose ce matin de ce que je vous ai dit, dans une situation difficile où est-ce qu'il y a des ténèbres, rappelez-vous de trois choses. La puissance de la prière, la puissance de la parole et justement la puissance de la présence de Dieu avec vous. Et avec ces trois choses-là, vous pouvez justement être un instrument entre les mains du Seigneur pour faire face à n'importe quelle situation qui vous paraît impossible. Et si ce matin vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'êtes pas connecté à Dieu, comme Élie, séparé à cause de vos péchés, le Seigneur Jésus-Christ veut intervenir. Et vous pouvez le faire par une simple prière. Reconnaître devant le Seigneur que vous êtes perdu à cause de vos péchés. Mais reconnaissez aussi que Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix de Calvaire. Et Dieu vous pardonnera, vous donnera la vie éternelle. Et qui sait qu'est-ce qu'il ferait de vous et de vous et de vous. Élie, un homme simple. Dieu utilise les choses viles de ce monde, les choses faibles, pour confondre justement les puissants. Et il a utilisé Élie justement pour faire une œuvre en Israël. On va prier. Seigneur, on va te remercier pour ta parole qui est la vérité, qui nous enseigne, qui nous encourage, qui nous équipe. Et nous te demandons alors ce matin que ta parole puisse être puissante dans nos vies, dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, Seigneur, face aux choses qui pourraient être décourageantes, que nous puissions nous confier en toi dans la prière, que nous puissions nous appuyer sur ta parole et que nous puissions aussi nous contenter, Seigneur, avec ta personne. Alors, bénis ton peuple, Seigneur, et fais-nous du bien. Demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.